Voilà, écoutez, on arrive pratiquement à la fin de notre parcours. Et donc je vous propose aujourd'hui d'aborder l'Église du Christ, en tout cas d'aborder l'originalité de la foi chrétienne. Comme on arrive un petit peu, enfin même bien à la fin du parcours, il y aura des petites redites, mais bon, ça permet aussi de réinstaller les éléments de ce parcours sur des éléments que vous connaissez déjà, même si on avance dans le parcours sur la manifestation de Dieu. Donc, un cours sur l'originalité de la foi chrétienne. Et donc, en introduction, on reprend un peu les fondamentaux, à savoir que la révélation de Dieu et sa manifestation en Jésus-Christ fonde notre foi. Notre foi ne s'inscrit pas en dehors du fait qu'à un moment donné, Dieu a parlé aux hommes dans l'histoire et que son Fils unique, Jésus-Christ, est mort et ressuscité. D'abord a été incarné, mort et ressuscité. Donc le point d'orgue de notre foi ou de la foi, c'est la résurrection du Christ. Parce que c'est sur son attestation que l'Église est fondée par les apôtres après avoir reçu la mission de Jésus lui-même. Donc ça, c'est les bases, un petit peu les bases de notre foi. Et lorsque nous parlons de foi, nous parlons bien entendu de la foi de l'Église et donc de l'Église en tant que gardienne de la foi, gardienne du dépôt de la foi. De la foi, de la tradition et des Écritures. Mais en même temps, ce n'est pas que ça, parce qu'il ne faudrait pas oublier que la foi, c'est aussi la foi intériorisée de chacune et chacun d'entre nous. C'est-à-dire l'attitude spirituelle de celle ou de celui qui croit. Alors, le mot foi, on le retrouve assez largement dans les évangiles, principalement dans les miracles de Jésus, « Va, ta foi t'a sauvé ». Mais dans l'ensemble de l'Écriture, on retrouve des expressions de la foi. Par exemple, en hébreu, on retrouve le mot « emet » qui va exprimer la foi. « Emet ». En grec, on va retrouver le mot « pistis ». Et puis en latin, ce sera « fides ». Donc la foi, qu'elle soit exprimée sous ces trois traductions, hébreu, grec ou latin, le terme de foi ne peut pas être dissocié de l'acte de croire. Dites-moi, vous êtes perdu.
Non, c'est pas ça. Oh. Je croyais que la foi, ça voulait dire croire, justement.
Oui, mais on parle de l'acte de croire.
Ah, d'accord.
C'est-à-dire que la foi va... je perds le mot. La foi va susciter le croire, et le croire va susciter un acte. Alors, soit on peut parler d'acte de croire ou d'acte de foi. Mais dans les deux cas, la foi est à l'origine. C'est-à-dire que la conviction personnelle ou communautaire de la foi, confessée en église ou en communauté, est en même temps la foi de l'Église du Christ, mais aussi la foi intériorisée de celle ou celui qui croit. Mais on ne pourrait pas s'arrêter là, c'est-à-dire que la foi ne peut pas s'arrêter au simple mot de la foi ou à la simple pratique. Il faut qu'il y ait une mise en œuvre d'un acte. Et donc, la foi va mettre en œuvre l'acte de croire. En quoi le fait d'avoir la foi va générer un acte qui va être identifié pour soi et pour les autres dans le fait de croire? Alors ça peut être des signes, le fait de porter une petite croix autour de sa chaîne ou porter, je sais pas, une médaille de Marie ou, voilà, c'est un signe qui montre à l'autre que vous êtes croyante ou croyant, que vous intégrez la dimension croyante de la religion, et d'une religion qui peut être la religion catholique, ou un autre signe qui peut être la religion protestante. Donc voilà, donc c'est toujours comment la foi va générer un acte. Ça va ? Donc ça veut dire que la foi va devenir l'expression de l'acte de croire, et puis vice-versa, parce que ça va aussi dans les deux sens. Donc la foi n'est pas uniquement une affaire personnelle. Bien sûr, la foi nous concerne d'abord pour nous-mêmes, mais elle n'est pas que personnelle, parce qu'elle s'insère, comme je vous le disais, dans une tradition de transmission et dans les Écritures, comme témoignage. Et puis la foi, elle se dit, elle se confesse dans une communauté de croyants. Il est rare que l'on récite, que l'on dise le credo tout seul, bon, c'est possible, mais le credo, on le dit en communauté, on le dit ensemble, parce que c'est par le credo que l'on va, et puis par d'autres signes, bien entendu, il n'y a pas que le credo, mais en tout cas, montrer notre appartenance à une identité chrétienne, à une communauté ecclésiale qui va professer la même foi avec les mêmes mots. C'est le dépôt de la foi de l'Église. Donc l'enjeu de la foi et de l'acte de croire, ça va être de transmettre. C'est-à-dire que ça met en œuvre une responsabilité, ça oblige à cette responsabilité de transmission. Donc il y a un mouvement de réception, on reçoit la foi pour soi et en communauté, et mais l'ayant reçue, on se doit de la transmettre d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire selon les charismes, comme dirait saint Paul, les charismes que l'on reçoit, les charismes particuliers. Mais la foi, c'est aussi un mystère, on parle très volontiers des mystères de la foi. Et donc, il nous appartient de vivre ce mystère comme une originalité. Une originalité parce que c'est quand même assez particulier de professer sa foi et en même temps d'accepter de dire que l'on ne comprend pas tout, qu'il y a du mystère dans cette expression de la foi ou dans le ressenti personnel de cette foi. Et donc ça, c'est, on doit consentir à ce mystère et donc consentir à cette originalité qui veut que l'on accepte de ne pas tout comprendre. Cela veut dire aussi que, bien sûr, les dogmes nous permettent de comprendre, parce que les dogmes sont assurés, affirmés, dans leur solidité de la foi, mais on doit aussi pouvoir quitter les formulations dogmatiques, conciliaires, pour pouvoir exprimer autrement ce qu'est l'Église et le mystère de la foi en Église. Donc c'est notre premier point, l'Église et le mystère de la foi. Alors c'est là où on fait des petits allers-retours. On l'avait abordé très largement dans les cours précédents. Le mystère de la foi s'origine dans la manière dont Dieu se révèle à nous, ou s'est révélé aux hommes. Comment il va montrer sa puissance dans l'incarnation du Fils ? Et comment il va montrer le paradoxe de cette puissance qui est aussi la plus grande faiblesse de Jésus à la croix. Tous ces moments de la révélation sont des manifestations de Dieu, à la fois de confiance pour l'homme, de révélation pour l'homme, mais qui attendent une réponse de l'homme. Et la foi vient rejoindre l'attente de Dieu lorsqu'il attend la réponse de l'homme. Et là aussi, c'est une originalité. Un Dieu qui parle et qui attend de celui à qui il s'adresse qu'en retour, il lui adresse un geste, une parole de confiance, un acte de foi. Va, si je touche la frange de son manteau, je serai sauvé. Voilà, un acte qui va dépasser la capacité humaine de pouvoir se sauver tout seul. On ne se sauve pas tout seul. Le Christ nous montre le chemin du salut. C'est par lui uniquement que celui ou celle qui veut être sauvé peut l'être en réalité. Donc le mystère de la foi, il est en Jésus-Christ. C'est notre point suivant, le point 1.1. Et si on dit qu'il est en Jésus-Christ, alors c'est que l'Église n'est pas fondée de rien. Elle n'est pas une institution uniquement humaine. Son organisation, sa hiérarchie est humaine, mais le fondement même, la fondation même de l'Église, c'est le Christ lui-même. C'est d'abord l'Église du Christ. Et l'Église naît de l'événement de l'incarnation, de la vie, de la mort, de la résurrection de Jésus, et puis du don de l'Esprit à la Pentecôte. Donc c'est le mystère d'une incarnation et d'une union. Enfin, on pourrait même dire d'une incarnation en vue de l'union du Fils de Dieu avec les hommes. Donc c'est par le Christ que l'homme connaît Dieu, connaît le Père. On avait vu ça pour le mystère pascal, c'est par le Christ que l'on peut dire à sa suite « Abba Père ». Et donc nous, aujourd'hui, l'accès au Christ est possible en Église, mais d'abord dans les Écritures et dans les sacrements, en Église. Donc la lecture des Évangiles nous permet de connaître Jésus, mais aussi de connaître le milieu dans lequel Jésus a vécu. Les évangiles nous donnent des indications sur la situation sociale, politique, sur le milieu religieux, païen. Et donc ce contexte-là ne peut pas être ignoré lorsque l'on... Alors évidemment, pas lorsque l'on prie les évangiles, mais lorsque l'on va lire un passage d'évangile, on va s'informer de l'auteur qui a écrit, quand il a écrit, pourquoi il a écrit, à qui il s'adresse, quel est le milieu dans lequel il vit, quelle est la catégorie de personnes à qui il s'adresse. Vous voyez, ça nous demande de nous informer. Bien entendu, on ne fait pas ce genre de choses si c'est une lecture priante ou en oraison. Mais voilà, on est tous là ensemble, on fait de la théologie ensemble, donc voilà, il y a cette responsabilité-là aussi. Donc tout cela permet de garder la foi vivante et actuelle. C'est-à-dire une foi qui va pouvoir se dire dans un langage qui soit d'abord compréhensible pour soi, mais aussi compréhensible pour les autres. Compréhensible pour les autres parce que, il me semble, enfin, je me trompe peut-être, mais il arrive bien souvent que nous soyons obligés de justifier nos raisons de croire ou de justifier notre foi, des fois à l'intérieur même de la famille. Eh bien, nous informer autrement que par la foi ressentie, affective, pratiquée, de nous informer sur l'articulation théologique de la foi. De pouvoir trouver un langage qui puisse être compris, pas pour les croyants, mais aussi pour les non-croyants. C'est cela notre responsabilité quand on croit. Comment on va pouvoir témoigner de ce que la foi a changé pour nous à des personnes qui sont interpellées par le fait que nous croyons. Ça aussi, c'est une originalité de la foi chrétienne. Vous voyez, c'est une originalité par rapport à nos frères et sœurs juifs. Il n'y a pas de prosélytisme dans le judaïsme, puisque celui qui naît, si la mère est juive, par la mère. Donc, il n'y a pas besoin d'évangélisation ou de... Voilà, c'est une religion qui se... Alors, le terme est mal approprié, vous en conviendrez, qui se suffit à elle-même. Mais vous voyez bien la différence. Il n'y a pas la transmission, elle se fait d'abord directement, par naissance, par la naissance. La religion chrétienne, son originalité, c'est qu'il y a du mystère dans la foi ressentie, du mystère dans l'Église, que nous devons accepter ce mystère-là, mais qu'en plus, nous devons nous informer sur ce qu'est ce mystère, et c'est pour ça que vous faites de la théologie, et en vous en informant, vous avez la responsabilité de pouvoir justifier de votre foi lorsque vous êtes devant cette obligation-là. Il y a de la contrainte, on pourrait dire, d'une certaine façon, de la responsabilité et de la contrainte. Donc c'est pour ça que l'Église et dans l'Église, Jésus continue de se donner sacramentellement comme don, et nous le recevons par les sacrements comme un don, comme une présence et comme une vie, comme expérience de vie dans le Christ. Et donc l'annonce que nous recevons, que nous héritons des apôtres, cette annonce apostolique, ce kérigme, c'est bien vrai, le Seigneur est ressuscité, il est apparu à Simon, c'est comme un cri, comme une exclamation qui est faite aux pèlerins d'Emmaüs lorsqu'ils reviennent à Jérusalem, voilà ce qu'on leur dit, ce que le groupe leur dit, et bien cette annonce continue d'être le témoignage encore aujourd'hui dans l'Église. C'est toujours le témoignage de la foi apostolique. Ça n'a pas changé. Donc cette foi n'est pas née de rien. Elle naît de ce que Jésus a été, de ce qu'il est, de ce qu'il fait, de ce qui lui est arrivé et de ce que ses apôtres et ses disciples ont dit de lui et ont écrit sur tout cela, sur ce qu'il a fait, sur ce qui lui est arrivé, sur ce qu'il a dit. Et donc les récits évangéliques, même ils ont été écrits il y a de très nombreuses années, il n'empêche qu'ils maintiennent vive et vivante la foi en Christ et la foi de l'Église. Et donc la mémoire de la foi. Donc vous voyez bien qu'il ne s'agit pas de la foi d'un homme par rapport à une histoire. La foi chrétienne, elle ne s'origine pas dans un homme, un personnage, plus exactement un personnage historique. Que l'homme Jésus de Nazareth, et bien plus que Jésus de Nazareth, il a été confessé comme étant le Fils de Dieu. Donc c'est bien plus que le personnage historique. C'est pourquoi les théologiens, à un moment donné de l'histoire de la théologie, se sont intéressés à l'histoire de Jésus de Nazareth. Certains se sont intéressés au Jésus de Nazareth au détriment du Christ de la foi, et vice-versa. Donc, l'essentiel, c'est de garder l'union entre Jésus et Christ, entre Jésus de Nazareth, confessé comme étant le Fils de Dieu, donc le Jésus-Christ, le trait d'union qui vient unir à la fois le personnage historique et en même temps celui que l'on confesse comme étant le Fils de Dieu. Alors je vous ai mis un texte de Joseph Moins dans sa collection L'homme qui vient de Dieu. Donc il y a plusieurs tomes intitulés de manière différente, enfin qui portent un intitulé différent. Et là, je vous ai sélectionné le texte sur la rumeur de Jésus. Joseph Moins dit que son existence personnelle a une dimension passée et future illimitée. Depuis toujours, on l'annonçait et il existe dès maintenant dans l'avenir de l'histoire, maître des temps à venir. C'est pourquoi il n'a fait que passer, traversant d'un pas rapide le temps et l'espace, mais la totalité du temps et de l'espace, comme s'il se hâtait d'atteindre, au bout du monde, le terme de l'histoire qui lui était assigné depuis le début des temps. Cette vérité de son événement ne peut pas être vue. Elle ne peut être que dite et crue, c'est-à-dire annoncée. En un sens, elle est bien identique à la facticité de l'événement. Elle est de passé, mais seul son rapport au passé prophétique et au dessein de Dieu fait la lisibilité de l'événement tel qu'il est annoncé. Ce sens mis de côté, l'événement pris au ras de l'observation empirique se résume en un mot aussi rapide qu'énigmatique. Il a passé en faisant le bien. Cette simple phrase désigne Jésus comme un homme hors du commun, au destin singulier, un homme qui suscite une légende et dont la rumeur constitue le personnage. Le narrateur ne s'arrête pas à décrire sa vie. Il cherche à éclairer son destin, non exactement celui que Jésus a vécu, mais celui qu'il attendait alors que Jésus n'était pas là, et qu'il attend encore alors qu'il n'est plus là. Donc vous voyez, enfin, je vous incite à relire ce texte pour vous-même. Il y a quand même l'idée chez Joseph Moins, quand il parle de rumeur, de dire que cette rumeur, elle continue encore aujourd'hui. Vous voyez ? C'est-à-dire que cette rumeur qui naît de Jésus historique, du personnage de Jésus, Fils de Dieu, mort et ressuscité, et confessé comme tel, confessé comme Fils de Dieu, continue encore aujourd'hui, d'être cette rumeur qui se perpétue dans le temps et dans l'espace. Alors qu'il n'est plus là, nous dit Joseph Moin. Donc voilà quelque chose qui est de l'ordre de la foi. Faire un acte de foi en un homme qui a vécu, confessé comme fils de Dieu, mais qui n'est plus là aujourd'hui, mais dont la présence se retrouve dans les Écritures, en Église et par les sacrements et dans les sacrements. Et donc, plus loin, alors je ne sais pas si c'était dans le texte, mais je l'ai surligné là, mais je vous le redis, vous regarderez ce que dit Joseph Moin, l'histoire, la vraie, celle qu'on raconte avant de l'écrire et que l'on continue aujourd'hui à raconter. Et donc, cette histoire que l'on continue de raconter, elle est précisément en raison de la mission que Jésus a reçue de son Père. Cette mission qu'il a menée jusqu'au bout et qu'il a accomplie. Et donc Karl Barth, le théologien protestant Karl Barth, écrit « Jésus est le porteur d'une certaine fonction. Il n'est donc pas homme d'abord pour avoir ensuite également cette fonction. Il n'existe pas d'humanité neutre de Jésus. » L'étrange affirmation de Paul dans 2 Corinthiens 5,16 « Si nous avons connu le Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. » pourrait être prononcé au nom même des 4 évangélistes. Ceux-ci n'ont éprouvé aucun intérêt pour ce que cet homme a pu avoir été et avoir fait en dehors de sa fonction de Christ, c'est-à-dire abstraction faite de l'accomplissement de cette fonction et donc de l'accomplissement de sa mission. Même en racontant qu'il a eu faim et soif, qu'il a mangé et bu, qu'il a été fatigué, qu'il s'est reposé et a dormi, qu'il a aimé, éprouvé de la tristesse, qu'il s'est fâché et a même pleuré, ils n'ont fait que mentionner les circonstances qui ont accompagné des événements dans lesquels, à aucun moment, il n'est possible de voir apparaître quelque chose comme une personnalité vivant indépendamment de son œuvre, possédant certains désirs personnels, certaines tendances ou passions particulières. L'être de Jésus en tant qu'homme est identique à son œuvre. Ce que nous dit Karl Barth dans ce texte-là, c'est que si on dissocie l'homme Jésus de sa fonction, c'est-à-dire de sa mission qu'il a reçue de son Père, et si on le comprend uniquement sur le fait qu'il a eu faim, qu'il a eu soif, quoi d'autre encore, qu'il a été fatigué, qu'il s'est reposé, qu'il a dormi, enfin toutes ces conditions qui sont des conditions humaines, qu'il a aimé, comment ? Qu'il a eu mal, qu'il a pleuré, toutes ces conditions humaines, si on les prend uniquement et si on les sépare de sa fonction, alors on est uniquement sur le Jésus de l'histoire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que s'il a pleuré, c'est qu'il a éprouvé de la compassion, parce qu'il est le Fils de Dieu. Il a éprouvé de la compassion pour la foule qui a faim, qui l'a suivi pour écouter son enseignement. Il a pleuré à la mort de Lazare. Donc, Karl Barth nous dit, on ne doit pas dissocier ce que Jésus est en tant qu'homme, dans tout ce qu'il ressent dans sa nature humaine, on ne doit pas le dissocier de sa fonction de fils, puisque c'est parce qu'il est fils de Dieu, amour avec un grand A, qu'il a pleuré, qu'il a eu mal, qu'il a souffert, qu'il a eu faim, qu'il a été fatigué, qu'il a eu soif et qu'il demande à la Samaritaine de lui puiser de l'eau dans le puits. Donc voilà. Donc, ce que Jésus vit et endure n'est pas isolé de son œuvre divine. Donc, si on voulait retenir qu'une seule phrase, c'est celle-ci. l'être de Jésus en tant qu'homme est identique à son œuvre. Il est identique à son œuvre parce qu'on pourrait même dire, parce qu'il est l'œuvre lui-même. En lui-même, il est l'œuvre et la mission. Souvent, je vous ai dit, il est le message et en même temps, il est le contenu du message. Ce n'est pas un messager, Jésus. Il est lui-même le message qu'il vient porter. Alors, voyons le point suivant. Le point 1.2, Jésus-Christ, donc, est à l'origine de la foi. Origine de la foi. Donc, on peut dire qu'il a mené sa mission en fidélité et en obéissance au Père. Mais cette mission, il ne l'a pas menée seule. Ça aussi, c'est important. Je crois que c'est Jean-Noël Besançon qui a écrit un livre « Dieu n'est pas solitaire ».
Ouais.
Voilà. Bien voilà. Ça aussi, c'est une originalité de la foi chrétienne. Dieu ne veut pas être seul. Il a un Fils. Et le Fils ne veut pas être seul. Il appelle des compagnons, des frères, pour l'aider à mener sa mission. Donc pour ceux qui sont appelés, c'est une rencontre extraordinaire. C'est l'expérience la plus fondamentale de leur vie. Et donc l'appel de Jésus et la réponse des appelés vont les placer devant la vérité de leur vie. Pour ceux qui sont appelés, là c'est un moment de vérité particulier. Et on pourrait même dire qu'acceptant de suivre Jésus, ils vont se libérer des conventions de leur vie sociale, c'est-à-dire des conventions des réalités de leur vie. Matthieu le publicain laisse tout pour suivre Jésus. Parce que de fait, Jésus les appelle à une exigence bien plus importante, plus haute que la loi. C'est l'exigence de l'amour. Et l'amour est au-dessus de la loi. Et non seulement par le Fils, la loi est sous l'amour, mais en plus, il amène ce commandement nouveau, cette dimension nouvelle de l'amour, à savoir l'amour du prochain. Et ça aussi, c'est une nouveauté. C'est une nouveauté radicale. La loi ancienne et la justice ancienne vont se changer par Jésus en loi d'amour. Et c'est ça qui ne va pas être reçu. C'est une loi nouvelle. Et pour citer à nouveau Jean-Noël Besançon, il dit « C'est en étant homme que Jésus est Dieu. C'est en étant homme qu'il est Dieu. » C'est-à-dire, c'est en ne renonçant pas à sa nature humaine qu'il va dire comment il est Dieu et comment Dieu est, comment Dieu va jusqu'au bout de sa réalité. Donc il va guérir, mais ça, voilà, c'est des choses que vous savez. Il va avoir un comportement singulier quand même. On n'imagine pas Jésus se mettre en colère. Pourtant, il se met en colère. La colère, c'est un sentiment humain très fort, on va dire presque de... un moment de...
faiblesse.
De faiblesse, parce qu'il n'y a pas de contrôle. Voilà. Et bien là, voilà, on découvre que Jésus est capable de colère. Hein ? De colère, et l'Écriture nous dit, il renverse les tables, même de gestes de, voilà, d'impatience, je n'ose dire de violence, mais de grande impatience. Donc, il y a là, dans cette affirmation de Jean-Noël Besançon, hein, c'est en étant homme, mais homme pleinement, il ne renie rien de ce que peut être la nature humaine, qu'il est Dieu, précisément. Et en plus, il va révéler qu'il est de Dieu. Parce que même dans ce moment de colère où il va renverser les tables dans le temple, comme ça, il va montrer qu'il s'agit de la maison de son père, donc qu'il est lui-même de Dieu et qu'il est concerné par ce qui est fait dans ce lieu-là, qui ne convient pas parce que c'est la maison de son père. Donc ça veut dire que Jésus ne transige jamais. Il révèle qui est Dieu et il l'est. Il mène sa mission jusqu'au bout, y compris dans cet accès d'humeur, on pourrait dire. Et de fait, sa condition humaine n'enlève rien à sa condition divine. Sauf que sa condition divine, elles vont révéler cette nouveauté qui va être la nouveauté des béatitudes. Matthieu 5, 1, 12. Ça, c'est tout à fait nouveau. Les béatitudes que vous connaissez. Eh bien, celui qui, dans sa vie, est au cœur des béatitudes, c'est Jésus lui-même. C'est Jésus qui vient nous révéler ce qu'est vraiment les béatitudes. Et donc, celui qui vit sa vie au cœur des béatitudes, eh bien, on peut dire que c'est de Jésus lui-même qu'il vit. Ça aussi, c'est une originalité de la foi en Christ. Être soi et en même temps être en communauté et vivre du Christ. J'ai vu une main levée, oui, dites-moi.
La célèbre colère de Jésus qui est quand même très spectaculaire, est-ce qu'on ne peut pas considérer que c'est pédagogique et que c'est aussi une petite piqûre de rappel d'Ancien Testament, parce que dans l'Ancien Testament, Dieu se met régulièrement en rogne contre son peuple, et non pas pour se venger de quelque chose, mais pour rappeler quelque chose.
Oui, oui. Oui, on peut dire ça, on peut dire ça. Et Jésus, c'est aussi, enfin, la manière qu'il a d'expliquer son enseignement par les paraboles, soit à la foule, et comment il va expliquer la parabole uniquement pour ses disciples, il se place en pédagogue. Donc on pourrait dire, oui, c'est une manière peut-être un peu brutale, mais de rappeler que l'on ne fait pas de la maison de son père une maison de commerce. Donc oui, c'est sûrement une manière alors une pédagogie très active là pour le coup, hein, mais une manière de redire cela. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, que vous dire d'autre? Alors, bon, pour finir ce point, et avant de lire le texte de Joseph Ratzinger, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne doit pas séparer le Jésus de l'histoire du Christ de la foi. Et que le Jésus de l'histoire a assumé sa nature humaine, y compris, comme on l'a dit, jusqu'à s'emporter dans la maison de son père, s'emporter de colère contre le fait de dévoyer la maison de son père en maison de commerce. Voilà, c'est ça, être homme pour Jésus, mais toujours en écho à sa fonction de fils, et en raison de la mission qu'il a reçue de son père. Voilà ce que nous dit Joseph Ratzinger. Celui qui reconnaît le Christ en Jésus, donc l'importance de ne pas séparer, celui qui reconnaît le Christ en Jésus, uniquement en lui, et qui reconnaît Jésus pour le Christ, celui qui perçoit l'identité totale de la personne et de l'œuvre, en y voyant le point décisif, celui-là a dépassé la problématique d'une foi exclusive, d'une foi opposée à l'amour. Il a réuni les deux et rendu impensable leur séparation. Le trait d'union entre Jésus et Christ, l'union indissoluble entre la personne et l'œuvre, l'identité d'un homme avec l'acte du don de soi, représentant également le trait d'union entre l'amour et la foi. Il ne peut pas y avoir d'amour sans foi et de foi sans amour. Donc la foi, c'est d'abord l'amour du Christ qui nous révèle ce qu'est véritablement l'amour, qui est bien loin de la compréhension analogique humaine que nous avons de l'amour. Il vient apporter une nouveauté. Et donc l'Église du Christ est fondée précisément sur cet amour. Alors pourquoi aussi fondée sur cet amour ? Parce que les apôtres qui ont dû mener la mission de construire l'Église, ils l'ont menée avec amour pour le Christ. Pourquoi avec amour ? Ils sont allés jusqu'à donner leur vie pour la fondation de l'Église, pour cette Église du Christ. Eux non plus n'ont pas transigé, ils n'ont pas aménagé leur discours pour être, comment dire, pour être oubliés des Romains ou des prêtres ou des docteurs de la loi. Non, ils sont allés jusqu'au bout de leur vie. Ils sont morts pour le Christ et pour l'Église. Donc l'Église, c'est en elle-même le témoignage de l'amour que nous héritons de cet amour-là. C'est-à-dire le kérigme apostolique, ce n'est pas que le kérigme apostolique, c'est le kérigme apostolique par lequel les disciples et les apôtres ont montré le grand amour qu'ils avaient pour le Christ jusqu'à mourir pour lui. Donc l'Église du Christ, elle s'inscrit dans la mort et la résurrection du Christ, de Jésus, dans son ascension et dans le don de l'Esprit à la Pentecôte. C'est ce même esprit que Jésus remet au moment de mourir, remet dans les mains du Père au moment de mourir. Et c'est ce même esprit que nous recevons à la Pentecôte, en tout cas que les disciples et Marie ont reçu à la Pentecôte. Donc c'est cet esprit qui est présent dès avant la création. Donc on pourrait dire que c'est un esprit d'engendrement, engendrement du Fils à l'incarnation, que c'est l'esprit de la résurrection, cet esprit qui fait remonter le Fils des enfers, et c'est l'esprit qui est donné aux hommes à la Pentecôte. On n'est pas sur trois esprits différents, on est bien sur une même unité de puissance à l'œuvre, et c'est cette puissance qui est à l'œuvre aussi dans les sacrements. Donc on pourrait dire que le don de l'Esprit à la Pentecôte vient inaugurer le temps de la foi, le temps de l'Église. Et ça, c'est un événement pour les chrétiennes et les chrétiens. C'est un événement pour l'Église elle-même. C'est un événement pour les chrétiens dans leur vie et dans la vie du monde. Comme présence visible, l'Église est la présence visible. Donc l'Église, c'est un événement qui naît d'un don. C'est notre point suivant, le point 2.1. L'Église, c'est l'événement du don de l'Esprit. L'Église naît du don de l'Esprit, qui naît avec cette affirmation « Jésus est vraiment ressuscité ». C'est sur cette affirmation que ceux qui ont la foi au temps de Jésus vont se retrouver et fonder une communauté. Communautés que l'on appelle les communautés primitives, ce rassemblement post-pascal. C'est d'abord ces groupes de femmes et d'hommes qui constituent l'Église, ces petites églises, ces petites communautés, que le grec va traiter traduire, on va nommer Ecclésia, l'assemblée, des petites assemblées. Et donc ces assemblées, le Christ lui-même, Jésus lui-même, en avait en quelque sorte informé Pierre au moment où il n'avait pas encore compris ce que cela signifiait. Matthieu 16, 18, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et la puissance de la mort n'aura pas de prise contre elle, dit Jésus. Et pareil, en acte 7, chapitre 7, verset 38, c'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, se tenait entre nos pères et l'ange qui lui parlait sur le mont Sinaï. C'est lui qui reçut des paroles de vie pour nous les donner. Donc l'assemblée, elle est déjà inscrite dans la mission.
Qui est lui ?
Comment ?
Qui est ce lui ? C'est lui qui ? C'est qui lui ?
Eh bien, je pense que c'est Jésus. C'est ouais, Jésus, fils de Dieu. C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, se tenait entre nos pères et l'ange. Donc l'assemblée, elle est inscrite dans l'Ancien Testament aussi. Elle prend le terme d'ecclésia en grec dans le Nouveau Testament en raison même du rassemblement autour du kérigme. Et donc cette assemblée, elle n'a de valeur que réunie autour des apôtres. C'est eux qui ont la fonction, l'autorité de réunir la communauté. Bien sûr que la communauté se réunit sur la foi que Christ est vraiment ressuscité. Mais pour qu'elle se réunisse, il faut qu'il y ait une autorité reconnue. Et donc l'autorité reconnue est d'abord celle des apôtres. La communauté va écouter, elle va recevoir leur enseignement. Et souvenez-vous, dans les actes des apôtres, bien des fois, les apôtres guérissent à leur tour. Qu'est-ce qu'on peut lire pour les communautés, pour les membres des communautés ? Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Voilà. Vous voyez bien ce petit verset-là, il nous indique déjà un modèle de vie d'église. Ils écoutent l'enseignement, ils prient ensemble, ils ont une communion fraternelle, ils partagent le repas. Fraction du pain, prière. Donc la fraction du pain, la prière, la communion fraternelle, on est là devant un modèle, déjà un modèle liturgique. Mais à l'époque, il ne se posait pas comme un modèle liturgique, la question ne se posait pas. C'était le modèle communautaire qui pouvait permettre d'identifier la communauté chrétienne. Les chrétiens faisaient cela. Ils se réunissaient le dimanche matin, ils partageaient le pain, ils priaient ensemble et ils lisaient soit les lettres de Paul, soit déjà l'écrit de Marc, s'il était déjà écrit. Donc, ces communautés ont accepté, non pas de renier, mais en tout cas, de vivre une vie nouvelle dans un monde qui n'était pas prêt à recevoir cette nouveauté. Et donc pour ceux qui sont issus du judaïsme, la nouveauté, c'est précisément la miséricorde de Dieu. Souvent, je vous avais dit, la représentation que les Juifs avaient de la justice de Dieu ou la miséricorde de Dieu n'était pas celle qu'ils attendaient avec le Christ. D'aimer son prochain comme soi-même, c'est une nouveauté en soi. Donc il y a une nouveauté de la justice de Dieu et du commandement d'amour. Ça aussi, c'est une nouveauté. Et donc, cette Église naissante, elle fait corps avec le Christ et elle accepte cette vie nouvelle. Et celui qui a le plus écrit sur et le plus développé la nouveauté de l'Église, mais dans ses traits les plus fondamentaux, c'est Paul. C'est-à-dire qu'il a développé l'Église comme corps du Christ, par exemple. L'idée que le baptême est une plongée dans la mort et la résurrection du Christ. Donc le baptême, ce n'est pas simplement une identité chrétienne, ce n'est pas simplement être chrétien, puisqu'ensuite on a aussi à le devenir, jour après jour. Mais pour celle ou celui qui reçoit le baptême, il appartient au Christ. C'est une appartenance. Tout à l'heure, je parlais de quand on est juif, c'est voilà, on est juif par naissance, par la mère. C'est une appartenance en soi, mais là, on pourrait dire, par extrapolation, bien entendu, que le baptême nous fait naître dans cette existence, dans cette appartenance, de manière analogique, bien sûr. Et du coup, il y a une égalité des membres de la communauté qui ont reçu le baptême. Ils sont égaux entre eux. Il n'y a plus de tension, de dissension en tout cas. Ce qui fait dire à Paul dans l'Épître aux Galates, ce verset 28 du chapitre 3 que vous connaissez bien, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme, car tous, vous n'êtes qu'un en Jésus-Christ. Et ça, c'est une nouveauté. Mais vous voyez bien que ce verset-là, ce verset 28 de Galates, il va bien plus loin parce qu'il vient contredire l'organisation de la société telle qu'elle est à l'époque avec des esclaves, avec le fait que les femmes et les enfants n'avaient aucun statut, aucune reconnaissance. Vous voyez ? Et là, la nouveauté, eh bien, par le baptême au nom du Père, du Fils et de l'Esprit que donnent les apôtres, celui qui reçoit le baptême intègre une égalité tout à fait nouvelle. Et donc une égalité sociale à l'intérieur de la communauté. On va s'occuper des veuves. Voilà. On va s'occuper des pauvres. On va tout mettre en commun. On va vendre ses biens pour le bien de la communauté. Et quand on vend ses biens et quand on les met en commun, il n'y a plus de pauvres. C'est tout le paradoxe des religieuses. Elles ne possèdent rien et en même temps, elles ne sont pas pauvres. Parce que ce qu'elles possèdent, c'est la communauté qui la possède. Vous voyez, il y a cette vie communautaire qui est vraiment particulière. Donc, on est face à une unité nouvelle. Est-ce que vous voulez qu'on fasse une pause après le point ?
Alors, c'est Paul qui a parlé de l'homme nouveau aussi.
Oui. Lorsque l'on dit que l'Église est une, sainte, catholique et apostolique. Donc d'abord, l'Église est une. Elle est une au nom de l'Esprit qui l'a fait naître et qui est unique. Et chacun dans l'Église et à son baptême a reçu le même Esprit. Et pourtant, ce même esprit sera fécond de manière différente en chacun, chacune. Mais c'est toujours le même esprit qui vit, qui agit en Église. Donc l'Église, au nom de ce même esprit et au nom du Christ, forme qu'un seul corps. Qu'un seul corps, parce qu'il n'y a qu'un seul Christ, qu'un seul corps du Christ. Donc c'est au nom de ce même esprit, au nom du seul Christ, que l'Église est une. Et donc, Jésus-Christ est le sacrement de l'Église. Et c'est parce qu'il est le sacrement de l'Église que l'on va pouvoir dire ensemble, enfin après je veux dire, mais ensemble aussi, pourquoi pas, bien sûr, que l'Église est une et qu'elle est sainte. Donc l'Église est une par ce même esprit et par le fait que l'Église soit le corps du Christ, que le Christ se donne dans les sacrements, que nous pouvons dire qu'elle est sainte. C'est notre point suivant.
Attendez, est-ce qu'il y a une faute d'orthographe ?
Oh, c'est possible, c'est possible. L'Église est une. Alors, l'Église une, alors non, c'est l'Église une, est sainte.
Ah, d'accord.
Voilà. L'Église une, puisqu'on la est sainte.
Et après, les une sainte, et l'Église sainte est catholique.
Et voilà, c'est ça.
D'accord.
Voilà.
Il n'y a pas de faute.
Voilà, non, il n'y a pas de faute. Mais ça aurait pu être. Hein.
Parce que non, mais c'est pas ce qu'on.
Oui, ce qu'on a. Oui.
De dire que dans le.
Oui, on dit que l'Église est une sainte, catholique et apostolique.
Ouais.
Mais comme je reprends chacune des catégories les unes après les autres, on dit pourquoi elle est une. Et si on dit qu'elle est une, on dit pourquoi elle est une et sainte. C'est-à-dire l'Église une est sainte. Voilà. Alors c'est vrai que l'Église une est sainte. Et quand on dit que l'Église est sainte, on a parfois un petit peu de réticence à dire cela. Parce que voilà, c'est ça. C'est-à-dire après le rapport de la SIAZ, on se dit ça va être compliqué de la confesser sainte. En même temps, on doit se dire que l'Église, c'est une institution hiérarchique. C'est l'Église du Christ, mais organisée par des hommes, enfin des humains, on va dire.
Des hommes,
voilà, oui, on peut le dire. Je reste prudente, mais on peut le dire. Organisée par des hommes, voilà. Qu'elle n'est pas une démocratie, qu'elle est une institution hiérarchique, voilà. Mais qu'en même temps, si elle est sainte, elle n'est pas sainte du fait des hommes qui ont organisé, qui continuent d'organiser l'Église, mais, pardon, elle est sainte au nom du Christ, parce que c'est les Christ du Christ, c'est lui qui est saint. Et on peut se réconcilier avec cette catégorie quand on dit l'Église est sainte, et quand on est un peu fébrile en le disant, mais ne le soyons plus quand on a en tête l'Église du Christ est sainte. Parce que c'est l'Église du Christ. Après que les hommes de cette Église ne soient pas saints, on n'est pas trop surpris. C'est-à-dire que l'Église est sainte, mais en même temps, on nous dit, elle a à le devenir. On est appelé à la sainteté, donc on doit aussi tenir cela. Donc comprendre les faiblesses, rejeter les crimes, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, voilà, mais toujours avoir dans l'idée, parce que c'est quand même aussi un acte de foi, de pouvoir continuer à confesser que l'Église est sainte au nom du Christ, voilà, de ne pas rejeter l'Église en raison de ses agissements criminels, ça c'est important, enfin...
Pourquoi on parle toujours de l'Église comme institution et non pas l'Église comme la communauté des chrétiens ?
Alors, on la parle des deux manières. L'Église, c'est la...
On n'en parlait que d'institution.
Ben parce que là, il s'agit de dire que l'Église est d'abord héritée des apôtres, mais qu'héritée des apôtres, elle a dû être construite, structurée, organisée. Et donc l'Église, c'est une institution qui est organisée autour de sa tête, qui est le pape.
Et quand on parle de l'Église, là, c'est effectivement uniquement l'institution. Là.
Ben, ce n'est pas que l'institution, mais les assemblées primitives, les premières assemblées de chrétiennes et de chrétiens, il a bien fallu à un moment donné les organiser de manière à ce qu'elles puissent avoir une visibilité dans le monde qui était le leur et d'avoir une autorité qui est arrivée avec Constantin. Donc, à partir de là, les choses s'organisent. Elles doivent s'organiser. Si l'Église veut se maintenir et avoir une place dans l'histoire qui est la sienne, elle doit être visible. Et pour être visible, elle ne peut pas être juste un éclatement de petites communautés éparses. Il faut qu'elle devienne le lieu universel de l'universalité dont provient le mot catholique. Donc, mais ça doit être rassemblé dans une seule et même institution. Donc ça ne renie pas les deux. Les deux sont possibles. Une assemblée, une communauté ou des communautés, mais qui doivent s'organiser à un moment donné, parce qu'il est de l'ordre de la survie de la communauté église, de l'église. L'église, elle va rentrer dans l'histoire. Et donc l'église, elle va être ballottée dans l'histoire du monde social, politique, dans lequel elle s'inscrit. Donc il faut qu'elle soit un minimum organisé. Et donc quand Jésus dit « Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église », il y a bien l'analogie de la construction solide de la pierre et de l'édification, mais on voit bien que l'édification de l'Église, ce n'est pas qu'une édification du lieu, c'est une édification qui doit être une édification institutionnelle, parce que c'est ça le terme d'édification. C'est comment on va édifier une église qui va pouvoir traverser le temps. Et pour qu'elle traverse le temps, il faut qu'elle ait une autorité. Et l'autorité, c'est d'abord Pierre à la tête de l'église, et ensuite les successeurs de Pierre, les papes. Mais en fait, plus l'église s'organise, et plus l'église est puissante, plus elle doit s'organiser. Alors évidemment, c'est une organisation, quand je disais que ce n'était pas une démocratie...
C'est facile justement avec tous les affres qu'on voit dans l'Église
institutionnelle,
oui. De se dire, ben non, mais de toute façon, ce n'est pas ça l'Église de Jésus. L'Église de Jésus, ce n'est pas...
C'est presque bipolaire comme
oui.
système.
Oui, mais ce n'est pas que ça. C'est-à-dire, se dire, il faut peut-être qu'on arrive à séparer, c'est-à-dire se dire, on peut confesser l'Église comme étant sainte, en raison du Christ, mais pas en raison de...
C'est ça. Mais on ne parle pas d'institution dans ce cas-là.
Voilà.
Mais si, vous le dites, si, j'ai compris. Non.
Oui, alors je vois ce que vous voulez dire. Oui, je vois ce que vous voulez dire maintenant par rapport à l'institution. L'institution n'est pas sainte. C'est ça, on est d'accord. Bien sûr, l'institution n'est pas sainte. C'est une institution qui est organisée et parfois est mal organisée. Enfin, je veux dire, il faut quand même dire ce qui est, hein, quand même. Donc, et que, voilà, il faut reconnaître, non seulement elle est mal organisée, mais qu'en plus, elle a tué les crimes. Voilà, elle a mis une chape de plomb sur tout ça. Donc le silence, il est accusateur, quand même. Voilà. Mais d'où la difficulté de pouvoir confesser que l'Église est sainte. Je dis juste que, bah, pour nous aider à pouvoir dire le credo, jusqu'au bout de dire qu'elle est sainte, voilà, c'est ça. Non, bien entendu. Mais comme l'institution est faite d'hommes, elle a le devenir, quoi. Mais il me semble qu'avec le pape François, on est quand même en bonne voie. Enfin, j'espère quand même. Retenons que l'Église, c'est d'abord l'Église du Christ. Et que le Christ, c'est le Saint de Dieu. Et dire que l'Église est sainte, c'est reconnaître aussi qu'elle est sanctifiante. Elle est sanctifiante pour elle, mais aussi pour nous, parce que nous sommes sanctifiés au nom de Jésus-Christ. Et donc, cette sanctification, elle est pour les pécheurs, bien sûr, les pécheurs dans l'Église, et de l'Église, malheureusement, en vue de leur sainteté à venir. Voilà, parce qu'ils sont à sauver. Alors, face au problème que représente le terme de sainteté, par exemple, Joseph Ratzinger avait déjà écrit des choses, c'est notre texte saint, qui dit « En fin de compte, l'on ne peut ici que donner le témoignage de sa foi et dire pourquoi l'on arrive malgré tout dans la foi. » Et on peut retenir le « malgré tout hein, », il dit beaucoup de choses, hein. En fin de compte, l'on peut ici que donner le témoignage de sa foi et dire pourquoi l'on arrive malgré tout dans la foi à aimer cette Église. C'est nous, hein, aujourd'hui. Pourquoi l'on ose toujours encore reconnaître, à travers les traits défigurés, le visage de l'Église sainteté ? Eh bien, parce qu'elle est donnée par Dieu comme une grâce qui demeure en dépit de l'infidélité de l'homme, et nous aujourd'hui on pourrait rajouter des crimes de l'homme. Elle est l'expression de l'amour de Dieu qui ne se laisse pas vaincre par l'incapacité de l'homme, qui se montre malgré tout et toujours à nouveau favorable à l'homme, qui l'accueille inlassablement comme un enfant prodigue, qui se tourne vers lui, le sanctifie et l'aime. Et on peut dire aussi aujourd'hui que une Église qui se met à l'écoute des chrétiennes et des chrétiens et de son assemblée et qui est prête à la mettre en assemblée synodale pour l'écouter et mettre en œuvre un changement, c'est une Église qui aime. Donc voilà. À ce titre-là, on peut reconnaître que l'Église, elle peut être aimable et aimante, parce qu'elle aime quand même. Et elle aime et elle sanctifie. Voyons ce que nous dit le paragraphe 4 de Lumen Gentium, sur la sanctification justement. Donc du coup, on arrive dans des articulations un peu plus théologiques. Une fois achevée l'œuvre que le Père avait chargé son Fils d'accomplir sur la terre, le jour de Pentecôte, l'Esprit Saint fut envoyé, qui devait sanctifier l'Église en permanence et procurer ainsi aux croyants par le Christ, dans l'unique Esprit, l'accès auprès du Père. C'est lui, l'Esprit de vie, la source d'eau jaillissante pour la vie éternelle, par qui le Père donne la vie aux hommes que le péché avait tués, en attendant de ressusciter dans le Christ leur corps mortel. L'Esprit habite dans l'Église et dans le cœur des fidèles, comme dans un temple. En eux, il prie et atteste leur condition de fils de Dieu par adoption. Cette Église, qu'il introduit dans la vérité tout entière et à laquelle il assure l'unité de la communauté et du ministère, il bâtit et la dirige grâce à la diversité des dons hiérarchiques et charismatiques, il l'orne de ses fruits, par la vertu de l'Évangile, il fait la jeunesse de l'Église et la renouvelle sans cesse, l'acheminant à l'union parfaite avec son époux, le Christ donc, l'Esprit et l'Épouse, l'Église, en effet disent au Seigneur Jésus, viens. Ainsi l'Église universelle apparaît comme un peuple qui tire son unité de l'unité du Père et du Fils et de l'Esprit Saint. Donc l'Église, elle s'inscrit dans l'unité trinitaire. Ce n'est pas que l'Esprit du Père ou l'Esprit du Fils. Et donc il y a là, dans ce texte-là, il nous montre bien une universalité. Une communauté hiérarchique, mais aussi charismatique. Et donc, on pourrait dire dans le point suivant, bien oui, l'Église est l'Église une, sainte et catholique. Et donc, c'est la catholicité qui va caractériser notre Église, dans le sens où elle va se déterminer comme chrétien, et les chrétiens comme catholiques, vient dans le sens d'une universalité, donc catholique, universelle, mais formant tout de même une unité, alors même que le terme de catholique ne se trouve pas dans le Nouveau Testament. Le mot catholique n'est pas dans le Nouveau Testament. Mais pourtant, nous y trouvons l'idée d'une universalité, l'idée d'une catholicité. C'est à Antioche, par contre, que le terme de chrétien a été prononcé pour la première fois. Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 6, c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétien. En fait, le mot catholique, on le doit à Ignace d'Antioche. C'est lui qui le premier a utilisé le terme de catholique. Donc Ignace d'Antioche, on est dans les années 110, 115. Et donc Ignace adressait des lettres aux chrétiens parce qu'il avait la charge d'évêque, donc comme tout bon évêque, il écrivait des lettres aux chrétiens de sa communauté. Et donc, il les exhortait à l'unité, à la fidélité, il les exhortait à ne pas être troublés par les persécutions, et donc de faire unité et de trouver sa force dans le Christ. Et donc, dans une de ses lettres, il a eu cette phrase où il dit, pour renforcer les chrétiens, il leur dit, l'Église catholique se trouve là où est Jésus-Christ. Voilà. L'Église catholique se trouve là où est Jésus-Christ. Et donc, Jésus-Christ va devenir, en quelque sorte, la figure de l'universalité, donc de la catholicité. Donc le mot catholique, on le doit à Ignace d'Antioche, en référence à Jésus-Christ. Puisqu'on est dans une période de persécution, voilà, ils n'ont pas le droit de se rassembler. Quand Pline écrit à Trajan pour leur dire « Nous avons un groupe de chrétiens que nous devons transférer, pourtant je ne vois pas grand-chose à reprocher à ces chrétiens, que font-ils ? Ils se disent appartenir à un homme qui s'appelle Jésus, qui est mort maintenant. Ils se retrouvent ensemble le dimanche matin pour partager le repas et pour prier ensemble. » Voilà. Eh bien, dans ce contexte de persécution, Ignace leur dit, mais n'ayez crainte, il leur dit, l'Église catholique est là où se trouve Jésus-Christ. Si vous êtes, ou on peut faire une référence à l'Écriture, si trois sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Eh bien voilà, c'est ça l'Église catholique. Vous voyez, c'est ce que Jésus est venu changer. On ne rencontre plus Dieu dans le Saint des Saints, dans le temple ou dans la synagogue. Ce n'est plus un lieu particulier, ce n'est plus dans le temple, mais c'est là où on reçoit le Christ. Vous voyez ? Et donc nous-mêmes, quand on reçoit, voilà, on est nous-mêmes le temple de l'Esprit. Donc vous voyez, il y a cela qui change. Alors il y avait Madame et puis après...
Je me demandais sur l'étymologie,
l'Église une sainte catholique est apostolique. Elle est apostolique en raison même du don de l'Esprit que les apôtres ont reçu à la Pentecôte. Et donc, quand les apôtres reçoivent l'Esprit du Père, du Fils, et reçoivent cet esprit, et qu'ils construisent, qu'ils instituent, qu'ils édifient l'Église, eh bien l'Église va entrer dans une temporalité nouvelle. On dit que l'Église entre dans le temps eschatologique. Et donc ce terme eschatologique vient du mot eschaton. Et l'eschaton, c'est le victorieux. C'est le Christ, celui qui était victorieux sur la mort. Et donc l'eschatologie, si le Christ est victorieux sur la mort, il appelle aussi cette dimension à venir que sont les fins dernières. Donc l'eschatologie a à voir avec les fins dernières. Donc il y a une doctrine des choses dernières ou des fins dernières. Ça veut dire qu'il y a une projection en avant. L'Église a été fondée à un temps particulier, mais en même temps, elle est projetée dans le temps. L'Église aujourd'hui, elle est inscrite aussi dans le temps à venir. Vous voyez ? C'est pour ça qu'on dit qu'elle est passée dans une temporalité qui est à la fois le temps chronologique et en même temps dans une temporalité qui n'est pas que chronologique. L'Église continuera après nous, jusqu'à cette fin dernière, jusqu'à la parousie du Christ. Donc il y a une continuité, elle est apostolique, parce que la continuité de l'Église s'inscrit dans la continuité des apôtres. Leur témoignage, leur vie engagée jusqu'à la mort. Et donc, c'est la foi des apôtres. La foi de l'Église, c'est la foi en Christ reçue des apôtres. Et c'est pourquoi on dit que, et l'on professe, que l'Église est une, sainte, catholique et apostolique. Qui fait que l'on va confesser d'une même foi cette fraternité, voilà. Et en même temps, cette fraternité, je vous le disais, ben, parfois on flanche sur une des catégories, mais c'est pas grave. Puisqu'on le dit en communauté, alors on est porté en fraternité par ceux qui n'ont aucun doute et qui peuvent dire de manière tout à fait active et fidèle ces quatre catégories de l'Église. Ce que l'on doit retenir, c'est que l'Église, elle est un événement. Elle ne cesse pas d'être un événement. Voilà, même si elle est fragilisée, même si elle est blessée, elle demeure toujours un événement. Parce que c'est l'événement de Jésus-Christ. Parce que c'est le lieu où on le reçoit, où l'on reçoit les sacrements. Et que l'on vit dans les sacrements l'action même du Fils de Dieu qui se donne. Et que par les sacrements, c'est le Christ lui-même qui se rend présent. Et donc c'est notre point suivant, notre point 3, Dieu présent dans les sacrements. Alors le mot sacrement vient d'une traduction latine. Donc, à partir d'un terme grec qui veut dire mysterion. Alors de ce terme grec mysterion, le latin, on a découlé le terme de mysterium. Mysterium ou sacramentum. Et donc l'Église a choisi ce dernier terme, le terme de sacramentum, qui devient, d'où dérive, le terme de sacrement. Donc ça, on peut dater que c'est au 3e, 4e siècle que le terme de sacrement a été choisi. Et bien entendu, ce terme-là on ne le trouve pas dans l'Ancien Testament.
Et dans le Nouveau ?
Oui, dans le Nouveau, ils tiennent dans les gestes de Jésus. En fait, ce sont les gestes de Jésus qui ont été interprétés comme étant des sacrements. Mais bien entendu qu'il n'y est pas non plus tel qu'il y est. Enfin, en tant que tel. On n'a pas dit... Jésus n'a pas demandé le baptême à Jean-Baptiste en parlant du sacrement du baptême. Il devient, les gestes et paroles de Jésus intègrent la dimension sacramentelle, mais ne sont pas des sacrements nommés comme tels dans le Nouveau Testament. Donc ils tiennent leur origine des gestes et des paroles de Jésus. Et Lumen Gentium, dans la constitution dogmatique de Lumen Gentium, on peut lire que l'Église dans le Christ, donc c'est l'Église dans le Christ, est en quelque sorte le sacrement de l'union intime avec Dieu. Donc l'Église appartient au Christ et qu'elle demeure en union avec lui. Voilà ce que le paragraphe 1 nous dit, l'Église étant dans le Christ en quelque sorte le sacrement, c'est-à-dire à la fois le signe et le moyen de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. Elle se propose de mettre dans une plus vive lumière pour ses fidèles et pour le monde entier, en se rattachant à l'enseignement des précédents conciles, sa propre nature et sa mission universelle. À ce devoir qui est celui de l'Église, les conditions présentes ajoutent une nouvelle urgence. Il faut que tous les hommes, désormais plus étroitement unis entre eux par les liens sociaux, techniques, culturels, réalisent également leur pleine unité dans le Christ. Donc la question là, elle est de ne pas rejeter toute la dimension profane dans laquelle le monde est inséré, et le croyant et la croyante est inséré. Bien entendu, on ne rejette pas, on garde toujours les liens sociaux, techniques et culturels. Pour ce qui est du fondement du sacrement, bien sûr le Christ est le fondement du sacrement. C'était sur l'universalité, sur l'enseignement, sur la nature et la mission du Christ lui-même, comme étant, et sur le fait que l'Église... Et c'est les premières phrases qui sont importantes. Elle est le signe et le moyen de l'union intime avec Dieu et de l'union avec tout le genre humain. C'est-à-dire l'Église étant le signe de l'union avec tout le genre humain, le Concile vient redire la dimension universelle. Mais cette dimension universelle, on la comprend parce que la convocation de Vatican II, c'était de remettre l'Église dans la compréhension du peuple de Dieu. L'Église avait oublié qu'elle était le peuple de Dieu, parce que le peuple de Dieu, c'était l'Ancien Testament. Donc, redécouvrir que l'Église est aussi le peuple de Dieu vient redonner la dimension d'universalité. L'Église, c'est un peuple. Mais étant un peuple... La notion d'universalité s'approche.
Enfin, réalise également l'urgence. Alors, il parle d'une urgence, c'est par rapport à l'unité. Là.
Leur pleine unité dans le Christ. Mais avant cela, oui. Cette unité dans le Christ, l'Église la tient de sa propre nature, qu'elle est en raison du Christ, par nature et sa mission, elle est universelle. Voilà. Bon, mais c'est bien, en fait, d'exégèse du texte. Donc la question de l'unité, elle va se poser pour les sacrements. Le sacrement, par le sacrement, eh bien, on va retrouver le sens du rassemblement. Nous sommes rassemblés autour de l'Eucharistie que nous recevons personnellement. Mais en même temps, nous le recevons personnellement, mais en communauté. Ce qui est important, c'est que lorsque l'on reçoit l'Eucharistie, donc le sacrement, Nous sommes unis à Christ, mais nous sommes aussi témoins lorsque nous voyons les autres aller prendre, recevoir l'Eucharistie. Nous sommes aussi témoins de cela. Donc nous sommes témoins de l'unité que nous formons dans le sacrement, dans le même sacrement que nous recevons. Donc il y a ça à comprendre aussi dans l'universalité, dans le sacrement. Vous voyez, ce n'est pas simplement quelque chose qui nous concerne, nous. Celui qui reçoit l'Eucharistie et que nous voyons recevoir l'Eucharistie porte aussi en lui le témoignage de ce qu'il reçoit. Et nous-mêmes, nous sommes le témoignage pour les autres. Et ça, c'est quelque chose que le sacrement nous donne de discerner, de découvrir. Ce n'est pas simplement quelque chose qui est que pour nous. Et donc ça, le sacrement, il va se déployer dans le rite. Parce que les hommes sont en eux des animaux, enfin je ne sais pas comment on pourrait dire, ils sont en eux, le rituel est inscrit en eux. Nous sommes des êtres rituels. Dès le moment où on met le pied par terre, notre vie est faite de ritualité, voilà, plus ou moins visible. Parce que le rite fait l'homme. Il va réguler, il va organiser sa vie sociale, mais aussi sa vie spirituelle. Et donc cette ritualité, elle va rendre visible en Église le mystère de Dieu, dans le sacrement même. Elle est le signe que ce qu'il signifie, donc ce que signifie le sacrement, eh bien, ce qu'il signifie, c'est en raison même du don de Dieu, du don du Fils. Et donc, au XIIIe siècle, saint Thomas d'Aquin va conceptualiser le sacrement et il va le concrétiser dans cette phrase qui est éminemment caractéristique, de dire que le sacrement effectue ce qu'il signifie. Et c'est pour ça qu'on peut dire que le sacrement est performatif. Voilà, le sacrement fait ce qu'il dit. Il est performatif. Et Marie Chauvet dirait, il est immédiatement efficace. Vous recevez le sacrement, il est immédiatement efficace pour celui qui le reçoit. Il n'y a pas de distance, parce qu'il effectue immédiatement ce qu'il signifie. S'il signifie que vous recevez le corps du Christ, alors vous êtes vous-même le temple du corps du Christ. Vous êtes ce que vous recevez, je crois, nous dit saint Augustin. Voilà. Et ça, ça s'organise dans un rite, dans une liturgie, en Église. Et c'est pour ça que l'on dit qu'elle est sanctifiante, l'Église, parce que c'est dans l'Église que nous recevons les sacrements. Et donc ensuite, il y a les sacramentaux. Ça veut dire que c'est toutes les réalités dans lesquelles il y a de la sacramentalité. Voilà, ça va être l'eau bénite, ça va être le calice. Il faut que je regarde l'heure. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Donc si nous disons que tout sacrement est rite, parce qu'on peut le dire, tout sacrement est rite, en revanche, un rite ne devient pas forcément un sacrement. Il y a peut-être des rites qu'on fait le matin quand on se lève qui ne sont pas des sacrements. Voilà, par exemple. Voilà. Ce qui est essentiel, c'est de découvrir aussi la dimension sacrée de ce que nous faisons en Église et de ce que nous recevons. Et donc pour la liturgie, parce que je ne vais pas avoir le temps de terminer, mais ce n'est pas bien grave. La liturgie, c'est notre point 3.2. C'est un agir qui s'adresse à quelqu'un en vue de quelque chose de plus élevé que lui. Donc, la liturgie, c'est un agir qui s'adresse à quelqu'un en vue de quelque chose de plus élevé que lui. Et donc la liturgie, c'est un faire, c'est un agir. Hein. Et on connaît ce mot-là. Donc ça vient de liturgia, hein, peuple, et ergon. Ergon en grec, c'est le faire, c'est l'agir. Et ça, vous connaissez la métallurgie. L'urgie, c'est le faire en grec. La métallurgie, la sidérurgie. Comment on va agir sur le métal? Eh bien, la liturgie, c'est aussi une urgie, c'est un faire. Voilà. Et donc, la liturgie va créer un espace symbolique dans lequel le rite va pouvoir se déployer. Bien sûr, symbolique, on ne va pas crucifier quelqu'un à chaque fois que l'on... Vous voyez, c'est ça la dimension symbolique de l'Eucharistie. Et la dimension symbolique, c'est de dire et de ressentir, on est plongé dans la mort et la résurrection du Christ pour être élevé. Mais c'est dans une dimension symbolique. Donc pour conclure, la foi de l'Église, et je dis que des choses absolument logiques, c'est la foi des chrétiens. Et être chrétien, c'est être chrétien dans un « je », mais aussi dans un « nous » ecclésial. Que la foi de l'Église marque notre identité. Que cette identité, c'est d'abord un témoignage, témoigner que l'on vit des sacrements. Que la foi n'est pas seulement une annonce, mais qu'elle vient affirmer, enfin la foi de l'Église vient affirmer qu'à un moment donné de son histoire, l'Église s'est révélée aux hommes, s'est manifestée. Et que le royaume de Dieu s'est manifesté par et en Jésus-Christ. Et que la foi de l'Église, c'est la foi du Christ. Voilà. Merci.